j'ai été très incertaine avant de publier l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui. Cet épisode, il était l'un des premiers qui devait sortir en démarrant mon podcast, mais finalement, je n'avais pas osé et je me suis décidée à aller jusqu'au bout de mes idées à l'approche d'un an de ce projet. J'essaie de me rassurer à force d'entendre que l'intime est universel. Et effectivement, mon histoire, en prenant du recul, parle d'amitié, mais aussi d'enfance, de naïveté, d'amitié fille-garçon, d'expérience, de rejet. Et j'imagine qu'elle fera écho à bien d'autres choses de ta vie. Dans cet épisode, je suis ravie de retrouver l'enfant et l'adolescente que j'étais, et j'aimerais récupérer la force et l'optimisme que j'avais à cet âge. Cette histoire te plongera dans les années 90 puis 2000, avant de faire un pont jusqu'à aujourd'hui. Que reste-t-il de mes traumatismes adolescents, maintenant que je suis adulte? C'est toute la question que je me suis posée. Je te souhaite une très bonne écoute. Mon introspection a pris une grande place pendant le premier confinement. Tout étant à l'arrêt, j'ai eu beaucoup de temps seule, propice pour me plonger dans mes pensées. Une histoire d'amitié brisée m'est revenue en pleine figure. D'un coup, comme ça, c'est revenu me frapper. Pendant des jours, je n'arrêtais pas d'y penser, je revivais les scènes en boucle, et au fil du temps, les souvenirs ont donné plus d'espace, et j'ai repensé à tout mon chemin amical, de ma petite enfance jusqu'à mon adolescence. Et alors, j'ai écrit ce texte pour y déposer mes pensées, et me permettre de passer à autre chose, enfin. Ça me hante encore parfois, alors j'ai eu envie de le lire à voix haute et de le partager ici. Certainement par besoin de partager mon histoire et par besoin de témoigner de l'absurdité des actes de l'adolescence qui pourtant va vous poursuivre toute votre vie ensuite. I lost a friend, like keys in a sofa, like a wallet in the backseat. Like ice in the summer heat. Une pensée qui d'abord me frappe est que malgré ma timidité et ma réserve, j'ai toujours été entourée d'amis. Aujourd'hui, après tout le chemin pour apprendre à me connaître, je suis surprise en fait de remarquer ça. Je n'ai jamais, ou presque, tu verras par la suite, été seule. Cela veut dire que j'ai toujours réussi à me créer des liens avec des personnes et ce constat me rend fière de moi. Je pourrais parler de ma timidité peut-être plus profondément un jour, car elle était vraiment maladive dans certaines situations. Donc me rendre compte que finalement, j'ai toujours été entourée et appréciée me met du baume au cœur. Une fois adulte, je trouve de plus en plus compliqué de franchir le seuil de la connaissance en réelle amitié. Lorsqu'on est adulte, on a de nombreuses sollicitations sociales, notamment dans mon cas, beaucoup de collègues et de rencontres éphémères qui remplissent grandement ma jauge de sociabilité. Mais pour autant, même avec des personnes que j'affectionne particulièrement, il est difficile de franchir la frontière entre être collègue et créer une vraie relation amicale qui tend vers une plus grande intimité. J'ai déménagé plusieurs fois et maintenant que j'ai trouvé l'endroit où rester toute ma vie, les années passent et je ne rencontre plus de nouvelles personnes, je n'ai pas de nouvelles amitiés. Cependant, j'arrête ici cet aparté car dans cet épisode, je voudrais revenir sur des amitiés du passé. Je vais faire un retour sur mes amitiés de mon enfance jusqu'au lycée. Ce sont des chocs liés à des amitiés qui me sont revenus soudainement et j'aimerais réfléchir à comment je les ai vécues et comment je les vois aujourd'hui. Tout d'abord, le premier fait est que j'ai toujours eu beaucoup d'amis garçons. Alors, avant d'arriver à l'époque du lycée, j'aimerais particulièrement faire le tour de tous ces super garçons qui ont croisé ma route. Mon tout premier souvenir amical est ma rencontre en maternelle avec Samy. Cela a une grande importance pour moi que le premier ami de ma vie ait été un garçon. Je crois avoir des souvenirs avec lui jusqu'en CP, mais je me demande si ensuite il n'a pas changé d'école ou déménagé. Je crois avoir un souvenir de lui et moi nous tenant la main, mais je ne suis pas sûre que ce soit un vrai souvenir. Je sais qu'on m'avait raconté que l'on se tenait la main. Alors j'ai une image en tête où je nous vois nous tenir la main, mais je me vois moi de dos. Donc je ne sais plus si c'est un souvenir ou moi qui m'en suis créé un. Ce garçon m'évoque un sentiment de douceur et de profonde bonté. C'était un garçon d'une grande gentillesse et calme. Quand j'y pense, cela m'apaise. Je chéris le souvenir de ce petit garçon et de notre amitié. J'adore entendre encore aujourd'hui ce prénom, ça me fait sourire et ça me fait du bien. Et j'aime bien parce que dans Samy, il y a Ami.
Je n'ai pas d'amis comme toi. Non, 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 pas d'autres amis comme toi.
Ensuite, il y a eu Michael, mon voisin. Il devait avoir un an de plus que moi, nous n'étions pas à l'école ensemble. Je n'ai pas de souvenir clair de son visage, je crois voir encore un épi derrière sa tête et ses cheveux noirs. Nous jouions plus souvent chez lui que chez moi, alors on jouait beaucoup avec ses jouets. Des Action Man, des véhicules de chantier, des 4x4. On jouait dehors au ballon et on jouait à s'imaginer être des membres des To Be Free.
On a to be, on s'est juré de toujours tout partager.
Je me rappelle y jouer chacun sur notre trottinette. On choisissait qui on allait incarner du boys band. Souvent, on sortait des craies et j'imagine que l'on devait jouer à la marelle ou à dessiner sur le bitume. Je me souviens de ces deux chiens, deux boules de poils sales et emmêlées qui parfois se battaient dans le garage comme ça, d'un coup sans prévenir. J'entends encore leurs cris de rage à se sauter au cou et s'enrouler l'un sur l'autre. Quand j'étais petite, j'étais passionnée par les chevaux et sa mère aimait dessiner. Elle m'avait fait un beau croquis d'un cheval au galop que j'avais accroché dans ma chambre. Je crois qu'elle l'avait fait au fusain. Parfois, on allait marcher avec son père et son grand frère, qui était lui bien plus âgé. Je me souviens qu'ensemble, en marchant, ils se retournaient les paupières pour m'embêter et ça me faisait peur, je ne voulais pas voir ça. Je me souviens aussi que ce frère devait regarder des films porno et que mon jeune ami avait dû en regarder aussi. Je ne sais pas comment je peux avoir ce souvenir, mais j'avais dû comprendre qu'il regardait avec son frère des choses qu'il n'aurait pas dû voir à son âge, et j'ai dû recoller les morceaux de ce souvenir bien plus tard en l'assimilant au fait que c'était des films pour adultes. Car c'est certain qu'à l'époque, je n'avais pas clairement compris de quoi il parlait. J'avais juste compris que, en tout cas, il faisait quelque chose d'interdit ou de mauvais. Et je me souviens que déjà à cet âge, je n'approuvais pas ce que j'entendais et j'avais un certain sentiment de dégoût et de gêne pour son grand frère quand je le fréquentais, juste du fait de savoir qu'il montrait consciemment des choses déconseillées à son petit frère. Et ce comportement ne me donnait pas confiance en lui ni en l'environnement dans lequel vivait mon meilleur ami. Un jour, ils ont dû déménager, je ne me souviens pas avoir mal vécu ce moment, et nos chemins se sont séparés naturellement. J'ai en tête des photos de goûter d'anniversaire qui devaient dater de la maternelle, et je me rends compte que j'ai connu certaines personnes dès mon plus jeune âge. Peut-être qu'au cours du primaire, les amitiés se sont modifiées, mais de la maternelle jusqu'au collège, j'ai eu une bande d'amis assez similaire à l'école, dont beaucoup de garçons. J'ai toujours aimé être entourée de garçons, je me sentais bien du fait qu'il y en ait plus que de filles. Peut-être parce qu'avec Michael, j'avais grandi avec l'habitude d'avoir un garçon comme ami et cela était naturel pour moi. J'ai toujours aimé jouer avec des jouets de garçons sans pourtant être moi-même un garçon manqué. Tous les jouets étaient propices au partage et au jeu, donc peu importe le sexe et sans jamais douter de ma féminité. Je m'adaptais à ses jouets, lui moins, c'était plus rare d'aller jouer dans ma chambre à moi et qu'on joue avec mes Barbies par exemple. Donc j'avais ma petite bande d'amis au primaire, mais j'ai eu ensuite des relations amicales plus privilégiées avec plusieurs garçons qui ont beaucoup compté pour moi, des amitiés plus fortes que d'autres, surtout pendant le collège. J'ai eu des périodes où un garçon devenait mon meilleur ami, puis cela s'arrêtait et... J'ai pas beaucoup de souvenirs de comment nos amitiés s'éteignaient par contre. Ce qui changeait la donne, c'est quand on se voyait en dehors de l'école. J'ai surtout des souvenirs de ces moments-là. J'ai adoré traîner avec Émile. Je vois clairement encore son visage rond, ses cheveux noirs en pique avec du gel, ses grandes pupilles marron, sa démarche, les vestes qu'il portait. J'ai le souvenir de beaucoup, beaucoup rigoler ensemble. C'était un clown. Et je n'en ai pas parlé dans mon optique de me concentrer sur les garçons, mais une personne qui m'a aussi accompagnée dans tout ce voyage amical est une fille, Marine, qui était également ma voisine et ma meilleure amie. Nous avons dû nous rencontrer quelques temps après Michael, et elle a été présente dans toute mon enfance et adolescence. Alors quand je parle de traîner dehors avec Émile ou avec d'autres garçons, c'était aussi souvent avec Marine. Je n'ai jamais eu de relation forte et amicale avec des garçons sans qu'elle ne soit là aussi, je crois. Nous formions toujours des trios en fait, ou une petite bande. On se présentait nos copains du collège et on devenait une bande de potes. On se voyait en dehors des cours, car avec Marine, nous n'avons jamais été dans la même école. Alors si je ne le précise pas, imagine que Marine fait partie de tous ses souvenirs, nous étions au moins trois joyeux lurons. Je ne sais plus comment, mais avec Émile, il y a eu un moment où nous avons dû nous éloigner et je me suis alors rapprochée du grand Julien. Encore un avec qui on a tellement ri avec Marine. Blond, grand, maigre, de longs bras, de longues jambes, il faisait beaucoup de vélo, c'était certainement un des seuls sujets sérieux pour lui. On jouait au Kems, on allait sur internet faire des conneries, on jouait à des jeux vidéo. J'ai passé beaucoup d'après-midi dans sa petite maison en ville. De mémoire, il parlait beaucoup de sexe, ou du moins de l'idée qu'on s'en faisait, avec beaucoup d'allusions qui nous pliaient de rire. Je me souviens de marcher jusqu'au stade et de le voir aller dans un coin entre deux maisons et de se mettre à gueuler dans la rue la réplique.
Oui, je t'encule, Thérèse, je te prends, je te retourne contre le mur, je te baisse par tous les trous, je te défonce.
Marine était explosée de rire, moi beaucoup moins, j'étais gênée de le voir hurler ça dans la rue, on était des jeunes ados prépubères et eux n'avaient honte de rien et criaient au monde leur existence. Heureusement que Marine a été là pour me décoincer, si moi j'étais très timide, ma meilleure amie, elle, était l'opposé. Elle était extravertie, grande gueule, dévergondée et rien ne l'arrêtait. Grandis avec une amie complètement différente de toi, tu verras ça bouscule, mais ça apprend beaucoup. Je ne suis pas sûre, mais je me demande si on n'avait pas fini par se fâcher avec Julien, et nous n'avions plus été amis.
On a tous les mêmes, c'est ça les amis. On les aime quand même, alors on sourit.
Il y a eu alors Thibaut, que j'ai adoré. Il est le seul à avoir fait partie de mon entourage de la maternelle, primaire, collège jusqu'au lycée. Je me rappelle encore très clairement l'implantation de ses cheveux, c'est bizarre de se souvenir de ça. Cheveux noirs, il avait une peau plus foncée comme bronzée toute l'année. Parents instituteurs, il partait en vacances souvent dans plein de pays, genre l'Égypte. J'étais fascinée qu'on puisse partir voir les pyramides à 12-13 ans. Il faisait de la plongée et plein de sports nautiques. Il était notamment le meilleur ami de Julien. Il jouait au football et j'allais voir les entraînements et les matchs, même quand il pleuvait. Qu'est-ce qu'on pouvait se faire chier avec Marine sur ces bancs durs et froids, mais ça faisait passer le temps. Thibaut a été mon premier amoureux en 6e, mais je l'inclus dans ma liste de meilleurs copains car il a été un superbe ami pendant des années avant et après cette amourette. Il compte plus pour moi en tant qu'ami que ex, je pense. C'était l'essor d'Internet à ce moment-là et nous avons beaucoup échangé, notamment les étés, de manière épistolaire mais virtuelle par mail. Car lui était tout le temps parti en voyage et il tâchait de trouver un endroit avec du réseau pour m'écrire. Et moi, je répondais de ma chambre avec l'ordinateur familial.
On allait au bord de la mer avec mon père, ma sœur, ma mère.
Ensuite, c'est Marine qui m'a présenté Jonathan, un garçon qui était dans son collège. un de plus que j'ai adoré. N'étant pas dans la même école, on se voyait le week-end et les mercredis après-midi, mais on discutait aussi beaucoup sur MSN. Je me souviens de beaucoup parler avec lui et avec Thibaut. Dès la fin des cours, on continuait toute la soirée à discuter, à se raconter des conneries, à s'envoyer des whiz, des chansons et mille gifs débiles. J'étais très amie avec eux deux, ainsi qu'avec un troisième garçon que je n'ai pas encore présenté. Celui-ci, je me souviens très bien du jour où notre amitié s'est scellée. À la rentrée de la CM2, je me retrouve assise au fond de la classe, à la dernière double table. Je fais alors la connaissance de mon voisin de table, Boris. Le courant passe et on devient rapidement très proches. De plus, c'est cette année au fond de la classe où je me rends compte que je ne voyais rien au tableau étant assise si loin. J'ai mis pourtant des mois à me rendre compte qu'il me fallait des lunettes. Il m'a souvent aidée à noter mes cours, à recopier sur lui à cause de ma myopie. Et c'est devenu mon meilleur ami, the best friend, encore plus que les autres. Grand, roux, plein de taches de rousseur, sportif, grande gueule, le comique de la bande. On a fait tout notre collège ensemble. Il était le meilleur ami de Jonathan qu'il connaissait car ils étaient dans la même équipe de foot. On a beaucoup traîné avec eux, Marine et moi. On était une vraie petite bande tous les quatre. Je me souviens d'un coup de maître qu'ils avaient fait où sur un site, des inconnus du monde entier pouvaient se parler. C'était un site de chat et on pouvait se montrer à la webcam. Et il y avait évidemment beaucoup de garçons qui montraient leur sexe en érection sans consentement, par surprise. Et Boris et Jonathan se sont alors un jour déguisés en femmes en mettant des chaussettes roulées sur leur t-shirt pour dessiner de faux seins. À la webcam, ils ne montraient que leur décolleté, mais pas leur visage. Et ils ont trouvé un mec chelou qui leur demandait de se déshabiller et qui a commencé à se masturber. Et les garçons ont alors levé la webcam et montré leur visage hilar à ce mec. Et j'étais subjuguée qu'ils aient monté un piège pareil. C'était un joli coup. Je crois que ce que j'ai aimé dans chacun de ces garçons est tout d'abord leur humour, mais aussi leur gentillesse, leur bienveillance et leur sensibilité. Nous étions en pleine adolescence et chacun a eu son moment de grande vulnérabilité ou des moments de déception dans nos relations humaines. Moi-même, je me souviens avoir été très fâchée contre Boris et lui avoir mis une gifle monumentale. Je ne suis pas fière de mon geste, c'était vraiment nul. Je sais que je l'ai profondément humilié ce jour-là. J'ai souvent été jalouse pour diverses raisons dans mes amitiés. Je cherchais à être la personne en qui mes amis puissent se confier le plus, être la meilleure amie, celle qui compte le plus, alors quand d'autres filles commençaient à prendre trop de place, je piquais des colères et tout mon environnement explosait. J'avais peur qu'on me pique Boris et de perdre cette relation si particulière et forte. Nous étions meilleures amies, mais tomber amoureux de quelqu'un, ça veut dire forcément qu'on va passer moins de temps ensemble. Et c'était difficile de voir mes amis tomber amoureux, de peur de les voir s'éloigner de moi. C'est peut-être le moment de parler d'un sujet qui a fait beaucoup de vagues dans mon petit cœur d'adolescente. Dans presque chacune de ces relations amicales, il y a eu un moment où ces garçons tombaient amoureux de moi.
La fille de la bande, mais une bande d'imbéciles heureux, et bien sûr amoureux. La ville qui est si grande est devenue notre terrain de jeu, et bien sûr dangereux.
Et j'étais à la fois flattée, mais surtout très énervée. Je n'ai jamais ressenti ça pour eux, ou en tout cas pas vraiment. Enfin, il est peut-être arrivé des moments de flirt où l'on se cherchait pour qu'au final je me rende compte que non, ce n'est pas ce que je ressentais pour eux. L'amitié passait avant l'amour. Les garçons pour qui je tombais amoureuse n'ont jamais fait partie de cette sphère qui est aussi si intime que celle de l'amitié. Si je suis ton ami, c'est que tu ne m'attires pas en gros. Je me souviens avoir pensé, mais pourquoi ils ressentent ça tout d'un coup? On est amis, et pourquoi d'un coup ça basculerait vers un autre sentiment? Je ne trouvais pas de raison à ça. J'aimais le fait qu'on puisse être en petite bande d'amis, sans avoir une relation différente. Il n'y avait pas de place pour l'amour, ça aurait paru bizarre. Il y a bien eu une relation officielle avec Thibaut, mais suite à notre rupture, qui était le même motif que ce que je viens de dire, en fait je ne t'aime pas comme ça, je t'aime en tant qu'ami, on a eu une période à vide, mais notre amitié a fini par renaître. Mais plusieurs années plus tard, il est retombé amoureux de moi, et ça m'avait beaucoup énervée. C'était comme me trahir. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi briser notre amitié? Pourquoi attendre autre chose de moi? Pourquoi tout d'un coup tu nourris d'autres sentiments? Alors que moi, ça ne m'arrivait pas, quoi. Donc cela finissait par me blesser et saccasser quelque chose. Le grand paradoxe, parce que tout n'est que paradoxe, c'est que ça me plaisait aussi, je vais pas le mentir, de savoir que je leur plaisais en plein dans cette période de puberté. J'aimais savoir aussi que je pouvais créer ce genre d'émotion. J'étais en train de découvrir tout ça. Alors peut-être que j'en ai joué, certainement un peu, en découvrant tous ces nouveaux sentiments. Mais voilà, je ne suis certainement pas toute blanche, mais pour certains, non, je n'y ai jamais pensé et je n'avais jamais rien fait pour. Il était hors de question de sortir avec mes amis, malgré toutes leurs ruses.
Je veux pas être ton ami, non, j'en veux encore, je sais que t'as pas compris, oh, c'est moi plus fort. Je veux pas être ton ami, non, j'en veux encore, je sais que t'as pas compris, oh, c'est moi plus fort, mais tout le monde le sait.
Arrive enfin le lycée, là où précisément je voulais en venir. Je me retrouve lancée dans la cour des grands, mais totalement sereine. Je suis entourée de mes meilleurs amis. Jonathan, avec qui je n'étais pas au collège, s'inscrit dans le même lycée que nous. Il y a aussi Thibaut, Boris et aussi Adrien, un autre garçon avec qui j'étais amie en maternelle et en primaire, mais qui avait fait son collège ailleurs. Donc encore une belle bande d'amis de garçons, pour mon plus grand bonheur. Et je ne suis pas la seule fille de la bande, il y a aussi une amie, Karine, et une autre fille. Nous attendions de connaître dans quelle classe nous serions, parce qu'on pouvait être dispatché dans des classes différentes, évidemment. Et le moment fut incroyable quand je me rends compte que je suis dans la même classe que mon meilleur ami, Boris, et aussi avec Karine et Adrien. Une chance de dingue. Donc forcément en classe, on avait toujours choisi des places où on était soit à côté de l'un ou soit à côté de l'autre. J'avais beaucoup de cours où j'étais à côté de Boris parce qu'on changeait de classe selon les matières. Et le matin, Boris et moi arrivions plus tôt que les autres. Quasiment les premiers, je sais plus pourquoi. Et donc nous avions un petit moment à deux avant que tout le monde arrive. Et il faut savoir que Boris faisait un peu office de chef de bande. Il est celui qui parle le plus fort, qui fait rire tout le monde et qui choisit sur quel banc on va s'installer à la récré.
Je suis le chef et le sous-chef, je suis Fernand le rigolo, je suis le petit gros à lunettes, je suis Robert le grand costaud. Il n'y a plus de problème de hiérarchie, car c'est toujours moi qui commande, c'est toujours moi qui obéis, faut de la discipline dans une bande.
Je vis ma meilleure vie jusqu'au jour où Karine tombe malade. Au bout de quelques jours, elle ne revient toujours pas. Il s'avère qu'elle a une maladie qui va l'empêcher de revenir au lycée avant un long moment. Boris se propose de lui apporter régulièrement les cours et les leçons pour qu'elle continue à étudier de chez elle. En classe, je me retrouve alors seule avec Boris et Adrien, et en récréation, je me retrouve parfois la seule fille, l'absence de ma copine se faisant bien sentir. Et c'est alors que tout a commencé à se dégrader pour moi.
Tu changes de veste comme on change de sentiment. Tout ce que tu détestes me ressemble bien à présent.
Je me souviens que Boris et Adrien prenaient de plus en plus un malin plaisir à m'embêter et à se moquer de moi. Je me souviens d'une anecdote, j'avais certainement l'habitude que tout soit à sa place sur ma table, le cahier bien au milieu, ma trousse bien centrée au bord de la table, et ils avaient dû remarquer ce toc, et à un cours de maths où nous étions tous les trois installés à la dernière table au fond de la classe, j'ai dû me lever pour aller au tableau, et ils en ont profité pour mettre un tube de colle derrière ma trousse. En revenant m'asseoir, voyant que ma trousse n'était plus exactement à sa place, je l'ai machinalement poussée au bord de la table et le tube de colle est alors tombé par terre, ce qui m'a évidemment surprise. Les garçons ont explosé de rire, ils n'attendaient que ça de voir ma réaction. Je me suis sentie humiliée et blessée que mes amis se moquent de moi, avec une certaine méchanceté et d'avoir ficelé dans mon dos un coup comme ça. Et en fait, c'était un signe avant-coureur. Il y a eu d'autres petites choses comme ça, de petites méchancetés, mais je me souviens pas très bien, je me souviens vraiment de cette anecdote-là. Je n'ai plus du tout la notion de temps, je ne sais plus combien de temps ça a duré, je pense quelques semaines, même pas, mais ce qui s'est passé ensuite m'a marqué à vie. Un jour, Boris a changé radicalement de comportement. Le matin, il me fuyait lors de notre arrivée au lycée, je crois même qu'il arrivait plus tard ou se promenait ailleurs exprès pour ne pas se retrouver seul avec moi. Et du jour au lendemain, il ne m'a plus du tout adressé la parole. Or, je faisais partie de la bande, alors pour m'exclure, il a commencé à se comporter d'une manière très brutale, pas physiquement mais moralement. En fait, il se comportait comme si je n'étais pas là. Il faisait comme si j'étais inexistante ou transparente. Tu vois les films où le personnage il se balade, je sais pas, dans un souvenir et personne ne le voit mais lui il peut voir la scène. Et ben j'ai vécu ça, enfin j'ai vraiment l'impression d'avoir vécu ça. J'étais là mais son regard ne se posait plus jamais sur moi. C'est comme si je n'existais plus. Et j'ai un souvenir au casier où il avait fait exprès de se mettre juste devant moi pour parler à quelqu'un, à presque me bousculer. Et il me semble que même je me suis pris un coup vraiment comme si je n'étais pas là. Il faisait de grands gestes pour parler, il me semble que je me suis pris un coup de coude. Vraiment, comme si je n'étais pas là. Quand tu parles, tu fais des gestes en ayant conscience de ceux qui t'entourent. Et là, non, il s'exprimait vraiment comme si je n'existais pas et je devais me pousser, quoi. Enfin, comme si je n'étais pas là physiquement. Donc c'était très brutal à vivre, enfin c'était incompréhensible. Et en se mettant dos à moi et devant moi, en continuant à parler aux autres, cela du coup m'excluait du cercle automatiquement. Ça me faisait sortir du cercle de parole et ça me montrait très clairement que j'étais de trop, quoi. Et évidemment, il ne me répondait pas quand je lui parlais. Il ne m'entendait plus non plus. En tout cas, il faisait très bien semblant. Je ne sais plus pendant combien de temps j'ai subi ça, mais je crois que je suis très vite partie. Jonathan et Thibaut semblaient impuissants face à cette situation et dans une incompréhension totale. Personne n'a réagi. Je ne sais pas s'ils penseraient comme moi, si on en parlait, mais c'est un peu violent, mais pour moi, Boris, c'était le chef de la bande. Alors si le chef décide de m'éliminer, les autres s'écrasent et acquiescent. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je sais qu'il n'était pas de son avis et ne souhaitait pas me voir partir du groupe, surtout qu'en fait, il ne s'était rien passé, donc c'était trop bizarre, quoi. Alors j'ai continué à entretenir une sorte de relation avec Jonathan sur MSN, mais je sentais le malaise que c'était pour lui, et je sais qu'il le cachait à Boris, qui continuait à me parler derrière son dos. Thibaut, lui, a eu les couilles de s'indigner et de continuer à être mon ami pour un certain temps. Il m'a accordé de son temps, sans pour autant choisir entre le groupe et moi, ce que je comprends. Je suis partie, donc. Je me suis retrouvée parfois seule, pour la première fois de ma vie d'écolière. Je m'asseyais à l'étage, par terre, sur le sol froid, et je me souviens qu'à chaque récréation, j'appelais ma mère et on discutait jusqu'à ce que sonne la reprise des cours, qui était signe pour moi d'une libération. Voilà, je n'avais plus du tout envie de ce moment de récréation. Être au lycée, en seconde, seule dans les couloirs, il faut avoir un certain courage pour y faire face. Je te jure que tu te sens bien mieux en cours à écouter un professeur parler plutôt qu'à te retrouver seul avec toi-même. Pour autant, je ne me souviens pas avoir subi des moqueries ni même des regards d'autres élèves de l'école. Juste, j'étais seule et sans amis, soit. Je ne dérangeais personne et je n'ai vu personne dire « Regarde, elle est toute seule !» Non, pas du tout. Donc, ma mère me tenait compagnie au téléphone. Heureusement, elle a été un soutien énorme. Elle avait voulu choper Boris à la sortie du bus, mais j'ai répondu que je ne voulais pas qu'elle fasse ça. En seconde, je décidais que j'étais déjà suffisamment grande pour régler mes problèmes personnels toute seule. Et si j'avais un enfant de 15 ans dans cette situation aujourd'hui, je me demande vraiment comment je réagirais. Ma mère, elle a respecté mon choix et m'a laissé gérer ça.
Tout ce qui me blesse, c'est la présence des absents. Ceux dont la faiblesse est de dormir à présent. Et tout ce qui me blesse peut s'éteindre avec le temps. Mais les amis sont lestes et s'envolent avec le vent. Mais les amis sont lestes et s'envolent avec le vent.
Thibaut venait me rejoindre à la récré du matin, je crois. Comme ça, je ne restais pas trop toute seule. Il était en colère. Il ne comprenait pas que je sois partie et que je subisse une exclusion aussi brutale. Lui n'avait pas décidé de ne plus être ami avec moi. Alors il venait passer un peu de temps avec moi. Et j'ai apprécié son courage et sa détermination. Il ne m'a pas abandonnée comme les autres et je me sentais bien moins seule. Même lorsqu'il partait les rejoindre, il m'était impossible de lui en vouloir. Il faisait ce qui lui semblait juste. Personne ne savait pourquoi Boris avait agi comme ça avec moi. J'ai deux souvenirs qui m'avaient donné espoir de comprendre, mais qui n'apportent pourtant aucun élément de réponse. Je vais lui écrire sur MSN le soir, à partir du moment où il ne m'a plus du tout parlé en face. J'ai tenté, et c'était trop, a priori. Je me souviens lui avoir demandé ce qui se passait, pourquoi il ne me parlait plus. Et je me souviens qu'il m'avait adressé une dernière fois la parole pour dire, sans même me regarder, que je le harcelais sur MSN. Donc je me souviens avoir été choquée qu'il me dise ça, parce que d'un, non, à aucun moment je ne l'ai harcelé de message. À partir du moment où il ne me répondait pas, j'ai pas envoyé des messages parmi les parsans. Il déformait donc la réalité. Et de deux, si j'avais tenté de lui écrire, c'est parce qu'il ne voulait plus me parler de vive voix. Alors j'essayais d'avoir des réponses par un autre biais. S'il n'a pas le courage de me dire en face ce qui ne va pas, écris-moi. Mais non. Mec, c'est toi qui es cruel avec moi sans aucune raison apparente, alors excuse-moi de chercher des raisons. Et j'ai un deuxième souvenir l'année suivante où il était sorti avec la cousine d'une amie. Ça faisait bien un an qu'on ne se parlait plus. Je ne la connaissais pas du tout, cette fille, mais a priori, elle lui avait demandé ce qui s'était passé entre nous parce qu'elle avait dû remarquer cette scission, j'imagine. Parce que tu vois bien les bandes d'amis et tu remarques quand des gens ne se parlent plus, quoi. Boris lui avait alors répondu et elle avait rapporté l'info à mon ami. Mais malheureusement, ce fut bien futile alors que je pensais avoir enfin une réponse, qui en plus tombait du ciel puisque je ne l'avais même pas réclamée moi-même. Et il y a certainement eu des déformations de phrases, mais il lui aurait dit une grande phrase grandiloquente de type « Tu sais, quand on aime une personne, on n'ose pas lui dire qu'on l'aime. » Boris était du genre à sortir des phrases de lover et des grandes phrases de ce genre. Donc pour moi, il a juste voulu faire le beau devant sa meuf en sortant une phrase stylée comme ça. Qui en fait n'a ni queue ni tête, enfin, ça n'a aucun rapport avec la question, ça ne répond rien. Donc bon, je ne prends pas du tout en compte cette information qui pour moi n'est là que pour noyer le poisson. Je ne vois pas en fait ce que ça pourrait dire quand on aime une personne, on n'ose pas lui dire qu'on l'aime. Bah, excuse-moi, c'est pas du tout une manière de dire qu'on aime les gens que de se comporter comme ça, enfin bref. Donc j'ai vite oublié ça. Et il y a eu aussi une fois... un mec de son équipe de foot qui était venu me voir en boîte pour me parler de Boris. Donc encore une fois, grosse montagne russe émotionnelle, parce que je pensais qu'il savait la raison, lui, et qu'il allait m'en parler, et limite qu'il allait peut-être que ça allait peut-être lui échapper et me dire ce qu'il savait. Mais non, Il venait vers moi justement pour savoir ce qui s'était passé. Donc j'en ai conclu que personne ne savait ce qui s'était passé. Ou alors les garçons, Jonathan notamment, ont peut-être gardé le secret. Mais je ne crois pas en fait que Boris se soit donné la peine de se justifier à qui que ce soit.
Tu manques à ma haine, tu manques à mon sang. Il y a des je t'aime qui tombent en s'abîmant.
Karine a fini par revenir en cours. Je me souviens marcher avec elle sur le chemin pour rentrer dans le lycée le jour de son retour et qu'elle me dise « Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé avec Boris ?» Et j'ai répondu une fois de plus que je ne savais pas. J'étais franchement sciée par cette situation et ce manque de justice. Et j'ai eu l'impression que cette question n'était pas très franche. Enfin, j'ai eu l'impression qu'elle savait quelque chose ou que Boris avait pu se confier à elle, qu'elle avait peut-être des éléments de réponse. Et je me suis demandé si il n'était pas tombé amoureux d'elle et qu'il avait décidé de m'éjecter du groupe ou en tout cas de sa vie à lui, étant donné qu'on avait une relation amicale franchement assez fusionnelle. Peut-être que j'étais devenue de trop dans ce tourbillon de l'adolescence, dans toutes les émotions qu'il était en train de vivre. Peut-être que j'étais celle à évincer pour éviter toute ambiguïté s'il éprouvait des sentiments pour une fille ou quoi. Bon bref, j'ai vite oublié cette supposition, car quand Karine est revenue, j'étais déjà passée à autre chose et j'avais arrêté de chercher une raison à cette histoire. Mais je m'étais dit quand même qu'ils avaient passé beaucoup de temps ensemble lorsqu'ils lui apportaient les cours, et peut-être qu'ils avaient parlé de moi et avaient fini par en conclure que je n'étais pas une bonne amie ou pas une bonne personne. J'y ai pensé car je ne crois pas avoir été très présente dans cette période difficile pour Karine. Je pense avoir été plutôt une mauvaise amie pendant ce qu'elle traversait. Je me souviens pas, par exemple, lui demander des nouvelles ou venir la voir. Je ne sais pas si je regrette, je ne sais pas pourquoi j'ai agi comme ça à l'époque. Je pense que sa situation me dépassait, c'était inédit pour moi, quelqu'un qui avait des problèmes de santé. Ouais, je pense que ça me dépassait, que je ne me rendais pas du tout compte de ce qui se passait pour elle en fait. Je me suis peut-être dit que c'était cool d'être chez soi et de louper les cours, à tort évidemment. Je ne sais plus comment je vivais cette situation, mais je suis quasi sûre de ne pas avoir été présente alors que je ne vois que ça, en fait, qui pourrait me faire défaut et à juste titre, et qui pourrait les faire se retourner contre moi. Et dans tous les cas, je m'excuse auprès de Karine qui, j'en suis certaine aujourd'hui, elle a dû se sentir bien seule, perdue et exclue elle aussi de ne plus pouvoir venir en cours, forcément. Tu sais plus ce qui se passe à l'école et t'es forcément exclue, quoi. Donc j'étais trop jeune pour m'en apercevoir. Mais est-ce que je méritais ça pour autant? Bon, si seulement si c'était ça la raison, je ne sais même pas. En tout cas, le retour de Karine n'a rien changé. On a arrêté naturellement de se parler avec elle aussi. Donc après ce coup de poignard dans le dos par celui que je pensais être mon meilleur ami, la vie a continué à me malmener et je ne m'y attendais toujours pas. On s'habitue pas à ça en fait.
Fais-moi de la place, juste un peu de place pour ne pas qu'on m'efface. Je n'ai pas trop d'amis, regardez en classe, c'est pas l'extase. J'ai beaucoup d'espace, je suis seul et personne à qui le dire.
Je suis enfin passée en première, je n'étais plus dans la classe de Boris, ouf! Et je me suis rapprochée d'une fille de ma classe, je n'étais plus seule. On a sympathisé, mais elle me mettait parfois mal à l'aise et je me suis rendu compte assez vite qu'elle mentait souvent ou qu'elle inventait des choses. Et je suis allée jusqu'à chercher la définition du mot mythomane sur internet et elle semblait correspondre. Alors je me suis de plus en plus éloignée d'elle. Je me souviens du jour où les photos de classe ont été imprimées et elle s'était esclaffée et elle m'a balancé « Ah mais la gueule que t'as !» et elle était trop morte de rire et je me suis sentie mais humiliée et blessée. Enfin, elle, je la trouvais pas plus belle que ça, et jamais je me serais moquée d'elle ou je me serais permise de lui dire qu'elle avait une sale gueule sur une photo, quoi. Enfin, c'était sûrement une blague pour elle, mais c'était de la méchanceté et qui sort si facilement d'une bouche. La facilité avec laquelle elle se permettait de me rabaisser régulièrement, c'était vraiment très peu pour moi. Et en plus, je pense que j'étais fragile à ce moment-là. Je venais de tout perdre, je n'avais plus d'amis, des amis en plus que j'avais de longue date. J'avais plus rien, quoi. Je n'avais plus qu'elle, alors elle a dû bien en profiter, quoi. Et c'est alors qu'un beau jour, une nouvelle est arrivée dans le lycée. Du pain béni pour moi, afin de réussir à m'extirper de cette relation malsaine, j'ai abandonné à mon tour cette fille pour m'investir dans une toute nouvelle relation avec la nouvelle du lycée. Faustine, longs cheveux ébène et raide, toute menue, habillée complètement en noir tous les jours avec sa veste en simili-cuir. Et incroyable, cette fille était 10 fois plus timide que moi. Elle se cachait le visage derrière ses longues mèches de cheveux, elle était très mal dans sa peau, cela transparaissait en la voyant. Tout en elle n'était que fragilité et vulnérabilité. Je me suis approchée d'elle en lui proposant mon aide pour l'intégrer à la classe. Et j'ai alors pris sous mon aile cette fille si frêle et apeurée. On a tout de suite accroché. Je me sentais mal de voir quelqu'un aussi mal dans sa peau et cela me donnait une grande confiance en moi et j'essayais de tout faire pour la soulager de ce mal-être. Et on a été tout de suite très proches. Je lui disais qu'elle était belle, c'est vrai, c'était vraiment une très belle fille. Je lui disais qu'elle ne devait pas se cacher comme ça, qu'elle pouvait avoir confiance en elle. J'essayais de l'aider et une fois la méfiance envolée, cette fille s'est ouverte à moi, même si je sentais qu'il y avait des parts d'ombre dans son histoire qu'elle ne me racontait pas. Elle était à l'aise avec moi, on avait un lien fort et je me suis rendu compte que ce brin de femme avait un certain caractère une fois la timidité envolée. Quelque chose qui me questionnait, tiens donc, c'est qu'elle avait tout le temps besoin d'être amoureuse de quelqu'un. On a bien compris que moi, non, c'était pas mon cas. Je ne comprenais pas vraiment le besoin d'être chaque jour tourmentée par une personne et d'avoir le cœur qui bat la chamade. Bref, passons. C'était donc une fille très jolie, en plus d'être une nouvelle. Alors, elle avait un certain succès, mais sa timidité maladive faisait qu'elle sortait avec des mecs qui lui plaisaient, mais uniquement virtuellement. Au lycée, elle les évitait, et au bout d'un moment, bah, du coup, les mecs, ils s'enlaçaient, ils en avaient marre, et ils la quittaient. Vers la fin de l'année, elle a commencé à me cacher des choses. Elle finit par m'avouer un jour qu'elle parle beaucoup le soir sur MSN avec un garçon de notre classe que moi je n'appréciais pas du tout. C'est un type de mec que j'ai rencontré plusieurs fois, comme le Adrien de ma classe de seconde, qui ont en eux une certaine méchanceté constante et gratuite. Du coup, des personnes que j'ai beaucoup de mal à cerner. Un comportement où la malveillance semble normale, non merci, c'est très peu pour moi. Donc je m'approchais vraiment pas du tout de ce type de garçon et elle parlait à un garçon qui était comme ça dans notre classe. Et du coup je suis surprise qu'elle me l'ait caché pendant tant de temps et un peu bouleversée parce que plus elle me parle, plus je me rends compte que c'est plus que ça et qu'elle entretient des sentiments amoureux avec lui et que ça a l'air d'être réciproque. Et moi, je n'avais rien vu venir, j'avais rien remarqué en classe que pouvait y avoir des regards entre eux, ou enfin, j'avais pas du tout remarqué qu'ils se parlaient en dehors de l'école. Donc très vite, ils se sont avoués leur flamme et ils ont officialisé leur relation. Elle a trouvé plus de courage et de confiance avec lui pour vivre vraiment une vraie relation parce qu'ils se sont vus en dehors de l'école, donc fini les relations virtuelles. Et quand tout le monde l'a su, ils ont bien sûr passé tout leur temps ensemble au sein du lycée. Donc au début, on a été tous les trois pendant les récréations. Puis très vite, Faustine m'a dit que ça le saoulait que je sois avec eux pendant les récrés à tenir la chandelle, quoi. Donc je suis restée assez interdite face à cette information. J'avais l'espoir qu'elle choisisse de garder son ami en plus de son nouveau petit copain. Enfin, ça me semblait pas incompatible d'avoir un mec et d'être quand même amie avec ta meilleure pote, quoi. Mais non, elle lui a obéi et ce qui m'a choquée, c'est que ça n'a pas semblé du tout lui faire de mal de me perdre. Donc on m'a abandonnée une seconde fois. Et ça s'est passé très vite, sans prévenir, en quelques jours, pareil que l'année précédente.
I know I'll be alright, but I'm not tonight. I lost a friend, I lost a friend, I lost my mind. And nobody believes me, say I know that he don't need me. Cause he made a little too much money to be 20 and sad. And I'll be fine without him, but all I do is write about him. How the hell did I lose a friend I never had? Never had.
Ça a été moins brutal, peut-être parce que c'était une amie de moins longue date. Et aussi, surtout, parce qu'il y avait une fille de ma classe que j'adorais, Coralie, avec qui je m'entendais super bien en classe. Elle avait une bande de potes et aux récréations, elle les rejoignait car ils étaient tous dans d'autres classes. Mais quand on revenait en cours, on se retrouvait toutes les trois avec elle et Faustine et on rigolait trop bien, on s'entendait trop bien. Alors quand Faustine m'a laissée seule, Coralie m'a accueillie et m'a proposé tout de suite de venir avec elle pendant les récréations. Elle m'a intégrée dans son groupe d'amis et je n'ai pas eu à revivre des moments de solitude dans les couloirs du lycée. J'ai beaucoup de reconnaissance pour son geste. C'est une épreuve que j'ai vécue une deuxième fois et ça vraiment, je ne m'attendais pas à ce que ça m'arrive encore. Enfin, c'était vraiment une situation similaire en fait. Mais ça m'a moins fait mal parce que je l'avais déjà surmontée et elle m'a tendu la main. Et je pense que ça m'a aidé à ne pas accuser le coup trop fort. Aujourd'hui, c'est la seule amie que j'ai gardée de ces années lycée. Il s'est passé quelque chose de fort quand on s'est rencontrés. Alors, le départ de Faustine, ça a été un mal pour un bien, parce que cela m'a permis de rencontrer quelqu'un de vraiment bon. Et on est très fidèles l'une envers l'autre, malgré la distance. Thank you, Voilà ce qui m'est arrivé au lycée, ou en tout cas, ce sont les souvenirs qu'il me reste 15 ans après. Je n'ai plus eu beaucoup de vrais amis garçons ensuite. Après l'adolescence, c'est peut-être plus difficile de rencontrer des mecs avec qui on ne reste que amis, sans arrière-pensée. Peut-être que tous ces amis garçons, c'était les frères que je n'ai jamais eus, et c'est ce qui me manquait peut-être. Je me suis questionnée sur quelles conséquences ces deux abandons avaient pu avoir sur moi. En regardant tout ça de plus loin, j'ai l'impression que je n'ai pas si mal vécu ce qui me tombait dessus. Je veux dire par là que oui, c'était brutal, c'était cruel, c'était triste, mais une fois passée la colère et l'incompréhension, je n'ai pas le souvenir de me sentir dévastée ou découragée, en tout cas pas sur la durée. Je ne me rappelle pas être paniquée, d'être seule... Mais même plutôt le contraire, plutôt d'en être sereine, acceptant mon sort. Je trouvais de quoi m'occuper seule, je ne me sentais pas jugée et je n'ai aucun souvenir de déprime ou de me sentir triste des semaines et des semaines après ce qui se passait, quoi. En fait, je savais que ce n'était pas moi le problème. J'en étais persuadée. À chaque fois, ces abandons-là, c'était soudain. Il ne s'était rien passé pour que ça arrive. Il n'y avait pas eu de dispute ou rien de particulier, donc je vois pas ce que j'aurais à me reprocher. Si on m'abandonne sans me donner aucune explication, c'est pour moi de la lâcheté ou de la méchanceté, ou alors que c'était une fausse amitié. Donc que je n'avais plus rien à faire avec cette personne en fait, surtout s'il vit sans problème avec la conscience de m'arracher à tous mes amis. Si tu es quelqu'un comme ça, bah finalement, bon débarras, tu me rends service, tu fais le tri pour moi. Aujourd'hui, si j'en aurais l'occasion, je ne voudrais même pas savoir ce qui lui était passé par la tête à Boris. Il aurait fallu que je le sache au moment où c'est arrivé, parce qu'aujourd'hui, le souvenir serait trop loin, ce serait un souvenir distendu, et ce serait trop facile de trouver une raison. Et en fait, je me dis que c'était sûrement un geste irraisonné de sa part dont lui-même il ne s'expliquait pas, étant donné que personne ne savait ce qui s'était passé, pas moi-même. Donc je pense que lui, il savait même pas pourquoi il avait agi comme ça, en fait. Mais en tout cas, il a jamais fait machine arrière. Donc c'est incompréhensible. Ce qui me surprend, en me rappelant tout ça, c'est que je me rends compte de la difficulté dans laquelle des gens que j'appréciais m'ont consciemment mise. Que ce soit Boris ou Faustine, ils m'ont lâché, mais sans se gêner, sans compassion, sans chercher à s'excuser, sans chercher à m'expliquer. Ils s'en fichaient de me mettre à terre ou de... qu'ils s'en fichaient que je me retrouve toute seule, alors qu'on avait un lien hyper fort. Et donc je suis surprise de me rendre compte qu'à ce moment-là, j'ai réussi facilement à me relever. Et je ne sais pas en fait si je suis encore aujourd'hui dans le déni ou si j'ai des souvenirs qui se sont effacés de grands moments de malheur, mais vraiment, je ne crois pas avoir vécu ça. J'ai eu de la colère, ça oui, de l'incompréhension, ça j'ai énormément cherché ce qui avait pu se passer, pourquoi on me faisait ça, voilà, ça c'est sûr. Mais je ne pense pas avoir versé une larme pour m'avoir fait ça. Et ils ne m'ont jamais manqué. Je n'ai pas pris ces épreuves comme argent comptant. Je savais que moi, j'étais juste et à ma place. Je n'ai rien à me reprocher. Je pense avoir fait du mal à quelques personnes dans mes relations amicales et amoureuses, mais dans le cas de ces deux personnes, je sais que non, je n'avais rien fait. Et dans le cas de Boris, si j'ai pu lui faire du mal à des moments, je ne me souviens pas du tout qu'il y a eu un malentendu ou un problème au moment où il a décidé de me faire ça. Donc, je n'ai aucun regret. Pour moi, je n'ai pas merdé. Donc, tu m'abandonnes, ok, bah je trace ma route sans toi. Je suis hyper fière de moi d'avoir su réagir comme ça alors que j'avais 15 ans et que j'aurais pu choisir de m'apitoyer sur mon sort. Je ne me rendais pas compte sur le moment de la force et du courage que j'avais. C'était pour moi simplement normal de continuer à avancer dans la vie et de surmonter les obstacles sans jamais renoncer. Ce qui me reste de ces histoires dans ma vie d'adulte, c'est peut-être une méfiance que j'ai envers quiconque. Je garde difficilement des amis. La moindre faute, le moindre signe où j'ai l'impression que tu peux te moquer de moi, le moindre mauvais tour ou la moindre vague, c'est fatal. Je ne pardonne pas. Je n'accepte plus de risquer de me faire avoir par quelqu'un, en fait. Alors si j'ai le moindre doute sur toi, tu sors de ma vie. Si tu me déçois, c'est pareil, je vais avoir du mal à revenir dessus et à pardonner. Et il y a des personnes qui ne m'ont jamais déçue, pour qui je sens que l'attachement est sincère, mais c'est un attachement qui est rare et long à tisser. Et les personnes qui m'ont déçue, si j'ai pu faire machine arrière, c'est parce qu'il y a eu une discussion par la suite. Mais sinon, c'est mort. Et j'ai peut-être perdu un peu de confiance en moi, mais surtout de confiance aux autres, plus le temps passant. Et honnêtement, je pense aussi que je me suis jamais vraiment sentie seule, parce que bah déjà j'avais Marine qui était ma meilleure amie et ma voisine, donc après les cours, le week-end, enfin je savais que j'avais cette amie-là, même si elle n'était pas présente à l'école. J'avais des amis virtuels aussi, voilà, parce que j'étais passionnée de comédie musicale et je parlais avec beaucoup de personnes de cette passion-là et j'avais des amis virtuels. J'avais voilà, ma famille. En fait, j'ai l'impression que même les moments où je me suis retrouvée seule dans les couloirs de l'école, je n'étais jamais seule. En fait, c'était être seule à un moment précis. À l'école, je suis seule, mais en dehors, je ne le suis pas. Donc, je n'ai jamais déprimé. C'est ce qui m'a certainement permis de ne pas être trop triste.
These are my friends, these are my friends. I love them, I love them. These are my friends, these are my friends. I love them, I love them.
Dans ma vie d'adulte, j'ai fait deux formations après mon bac où j'ai détesté les gens de mes promotions et on devait vivre ensemble pendant des mois et même des années. Et je pense que j'ai vraiment été très méfiante face à ces gens-là dès que je sentais que on n'était pas sur la même longueur d'onde, qu'on n'avait pas vraiment beaucoup de choses à partager. Je mettais d'énormes barrières. Et j'ai eu la chance d'avoir, dans mes deux formations, d'avoir au moins trouvé un ami à chaque fois, au moins une personne sur qui j'ai pu compter. Mais voilà, à chaque fois, c'était vraiment une relation privilégiée encore. Le groupe, vraiment, je m'en écartais énormément. Et en fait, je pense que même si je n'avais pas rencontré une personne avec qui je m'entendais bien, ça m'aurait pas dérangé d'être seule. Et ça m'est même arrivé de l'être, parce que quand t'es adulte, c'est beaucoup plus gérable, même si une personne seule reste vue comme bizarre une fois adulte, ça se passe beaucoup mieux que quand tu es à l'école en fait. Je sens que la trentaine bien arrivée, je peux me débarrasser petit à petit de ces démons que je traîne, la méfiance de l'autre, elle est toujours là, mais... Petit à petit, je la place différemment et j'accorde ma confiance plus rapidement. J'ai l'impression que je retente ça. Ma confiance en moi aussi, elle prend de plus en plus de place et ça facilite aussi ma sociabilité. En termes d'amitié, je suis à la fois très fidèle et affreusement sélective. Je mets du temps à m'ouvrir et à oser être moi. On s'étonne souvent de ce qui se cache sous ma carapace. Aujourd'hui, je fais un métier d'homme, donc avec beaucoup d'hommes. Donc j'ai toujours cette facilité à être entourée de cette manière. Toujours cette frontière entre amis, potes, collègues qui est fragile, mais bon, ça je m'y suis faite. Mais dans tous les cas, c'est des relations saines, même si je suis une femme, que c'est des relations homme-femme. Il n'y a pas d'ambiguïté malgré cette différence de sexe, et ça c'est super cool. Je ne sais pas à quel point ce que j'ai vécu était déjà en moi, ou si c'est le résultat des leçons que j'ai apprises. Le fait d'être méfiante par exemple, est-ce que je l'étais déjà avant ces années lycée? Je pense que oui, mais peut-être que ça l'a renforcé. Je pense que ça m'a appris à moins me donner, à offrir au compte-gouttes qui je suis. Sinon, c'est trop facile, quelqu'un comme Faustine, je lui ai vraiment tout donné tout de suite. Je me suis énormément investie pour être rejetée dès qu'elle n'a plus eu besoin de moi. Donc, c'était pas le bon comportement, c'était trop peut-être. Je me suis trop donnée et je me suis trompée, j'ai eu besoin... je pense de redevenir importante pour quelqu'un et j'ai jeté mon dévolu sur elle et en fait je ne voyais pas qu'elle n'en valait pas la peine et il me semble que donc ma meilleure amie d'enfance Marine ne la sentait pas quand je lui parlais de cette fille et qu'elle me l'avait dit mais que je n'avais pas voulu l'entendre. Mais voilà, du coup je pense que j'ai appris à moins me donner, mais j'ai l'impression aussi que ça contribue à me faire moins d'amis. Parce que vu que je n'ose pas parler de moi, que j'ose pas donner mon avis, mais c'est aussi des choses qui font partie de moi, mais ça a sûrement été amplifié. Le fait que je discute pas beaucoup avec les gens, c'est sûr que ça crée pas beaucoup de rencontres. Donc je pense que ce que j'ai vécu, ça m'a aussi renforcé... à vivre dans une certaine solitude, en fait. Et aujourd'hui, ça me fait chier. J'aimerais bien avoir un peu plus d'amis, ou en tout cas, j'aimerais bien avoir plus de gens avec qui je pourrais partager des choses. Et en fait, j'ai l'impression qu'il y a plein de rencontres qui ne se sont jamais faites, quoi. Boris, c'est différent, mais ça revient au même. Ça m'a appris que peu importe ce qu'on a vécu avec des gens, le moment de friction peut tout envoyer valser. Donc même si ça fait 10 ans qu'on est super potes, s'il y a un moment où la personne elle change ou si il y a un truc qui va pas, et ben c'est possible de tout foutre en l'air et que ça s'arrête. Donc aujourd'hui, dans mes relations, c'est qui tout double. Est-ce que cette relation vaut le coup? Est-ce que ça vaut pas le coup? Souvent, j'ai plutôt tendance à penser que ça vaut pas le coup. Et lui, il n'a pas hésité à m'effacer de sa vie, a priori, malgré donc les années d'amitié, on passait beaucoup, beaucoup de temps ensemble, donc je pense que ça m'a appris à faire le tri régulièrement et à faire des choix rapides dès qu'il y a un malaise ou un déséquilibre avec un ou une amie. Eh ben, je suis hyper tranchée dans mes décisions et dans mon avis, en fait. J'ai très peu de nuances. Les gens qui me font du mal, ça dégage. Les gens où je me sens moins à l'aise. Et en plus, je le fais un peu à la manière de Boris, de ce qui m'a fait subir. Je le refais sur d'autres, en fait, un peu, je m'en rends compte. Parce que ça peut être aussi brutal de ma part. Tu m'as fait chier, ben on se parlera plus jamais. Je n'accorde pas beaucoup de temps pour prendre cette décision, en fait. D'ailleurs, quand j'entends que les années lycées, c'est les plus belles de la vie, bah pour moi, les années lycées, ça a été les plus horribles. Donc après le lycée, je suis allée à la fac, et j'ai passé 3 ans, vraiment avec un radar, j'avais l'impression. Je voyais à des kilomètres des gens qui pouvaient être mauvais pour les uns ou pour les autres. Et pendant ces 3 ans, j'avais fait de super rencontres. J'avais pris une belle revanche sur ces 3 années lycée parce que vraiment, je me suis éclatée et j'ai rencontré des super personnes. C'était génial. Et alors, en démarrant ma vie d'adulte, j'ai ouvert un peu plus ma porte. J'ai tenté. J'avais eu envie de baisser ma garde pour voir ce que ça faisait enfin de s'ouvrir, ce que ça fait que juste d'être soi-même et d'oser parler, d'oser dire des choses intimes. Je suis devenue amie avec une personne et j'avais décidé de me confier à lui, de casser ma carapace, de lui raconter mon histoire, même des choses que j'ai du mal d'habitude à raconter et à avouer. Et malheureusement, je me suis rendu compte que cette personne ne méritait pas ça, que je m'étais trompée, il n'a pas pris en compte la portée que ça avait pour moi, ce que j'avais pu lui dire, et il a foutu en l'air toutes les choses que j'avais osé lui dire. C'était une fois de plus une erreur de ma part. Quand je me suis rendu compte que j'ai arrêté d'être aveuglée par cette nouvelle amitié dans laquelle je m'étais investie, j'ai arrêté totalement de lui parler, un peu du jour au lendemain, à partir du moment où il y a eu une petite friction. Peu importe si on avait passé des mois ensemble, je me suis retrouvée seule une fois plus, mais je m'en foutais royalement. Je lui ai dit que c'était un connard, et basta. Malheureusement, j'ai eu cette mauvaise rencontre, je me suis trompée sur la personne. Je suis retournée à la case départ. Sois méfiante, ne te dévoile pas, ne raconte pas ça. J'ai l'impression que quand il y a une friction avec quelqu'un, que mes émotions, elles sont décuplées, quoi. Notamment quand c'est un ami. J'ai été en colère et triste de m'être trompée sur quelqu'un, mais pas du tout de l'avoir perdu, cet ami. En fait, je ne m'accroche plus aux gens. Enfin, le moment où je perds quelqu'un de mon entourage, donc pas quand il meurt, hein, je parle d'une amitié qui s'arrête, mais ça ne me rend pas triste de ne plus l'avoir dans ma vie, ça ne me rend pas nostalgique. Je le vis plus comme un soulagement de perdre une personne qui ne me convient plus, en fait. Je préfère vite me débarrasser et que le temps fasse son œuvre que de continuer à donner de moi à quelqu'un en qui j'ai perdu confiance, même un tout petit peu. Par contre, j'ai d'autres émotions, donc qui sont énormément décuplées, notamment beaucoup, beaucoup de colère.
Merci encore d'avoir eu tous les torts. Merci encore, la rage me rend plus fort.
Je tends les mains, mes deux poings à ceux qui les ont liés. Je tends mon cœur, mon honneur.
Je regarde aussi le temps passer à me défendre.
Quant à l'amour, je sais très bien à qui le rend. Merci encore d'avoir eu tous les temps.
C'est très compliqué, les relations. Aujourd'hui, je sais que ça peut basculer du jour au lendemain. Et j'ai appris à vivre avec ça. Ça va me décevoir, par contre. Je vais me remettre en question, moi. Mais c'est OK. Il y a aussi des amitiés qui se délitent hein, naturellement. Évidemment, tout n'est pas que brutal dans mes relations amicales. Parfois, on se laisse continuer dans nos chemins respectifs. Et voilà, c'est comme ça. Mais j'ai pris la mauvaise habitude, par contre, de ne pas chercher à mettre au clair les choses quand il y a un problème significatif. Moi, j'ai beaucoup de mal à revenir m'exprimer. J'ai du mal à revenir sur le problème. En fait, je préfère partir fâchée. Il n'y a pas de souci. On est fâché et on ne se parle plus. Bah, au revoir. Et sans même qu'on s'explique. Je préfère ignorer et voir la situation disparaître. Et c'est certainement par peur de revivre ce genre de moment où je m'accroche à quelque chose et où on se fout de moi, où on me lâche comme Boris a pu le faire, mais sans aucun scrupule, quoi. Donc une fois de plus, c'est très paradoxal parce que je peux me poser 1000 questions sur pourquoi la personne elle agit comme ça, pourquoi elle me considère plus, ressasser, en parler des heures avec mon entourage, avec mes amis. Ça va me faire mal et pour autant, ne plus jamais aller recontacter la personne concernée parce que pour moi, c'est déjà fini et c'est next. Donc en fait, ça me fait mal au moment où ça arrive et en fait, très vite, je fais le deuil de ça. Et je pense que c'est aussi la peur de me ridiculiser comme on m'a ridiculisé et abandonné. En tout cas, cette histoire m'a conditionné, je pense, à préférer ne pas savoir quand il y a un problème. Et c'est sur, pas que sur mes amitiés, hein, c'est sur beaucoup de choses dans ma vie. Et je n'ai pas du tout une bonne base de communication. On ne m'a pas appris à exprimer ce que je pensais, ce que je ressentais. Alors tout ce qui est négatif, jamais je n'ose le dire à la personne, par peur de blesser. Alors que parfois, ça ferait du bien, parce que ça permet juste de mieux se comprendre. Parce que peut-être que j'ai pu interpréter une phrase juste d'une mauvaise manière et que c'est pas ce que la personne a voulu dire, ou moi-même j'ai pu blesser quelqu'un sans m'en rendre compte. Alors le fait d'en parler, bah souvent ça désamorce la situation on se sent mieux après. Mais non, je n'ai pas appris à faire ça. Et dans ces deux moments très durs où j'ai été abandonnée, je n'ai jamais su ce qui s'était passé, il n'y a jamais eu de communication. Donc ça me semblait être normal de vivre comme ça. Et en l'écrivant, et ces dernières années, notamment avec mon conjoint qui, lui, a besoin de beaucoup communiquer, bah, je me rends compte que c'est pourri, enfin, cette façon de faire. C'est pourri parce que ça ne permet pas le deuil, ça ne permet pas de s'améliorer, parce qu'à chaque conflit, je ne fais que des suppositions sur ce qui a pu se passer. Donc il y a mon interprétation, mais il y a aussi celle de l'autre, et ça je n'en sais rien, l'interprétation de l'autre. Donc ça ne permet pas de revenir en arrière, ça ne permet pas de pardonner. Je sais pas si ça se ressent, mais quand je raconte les histoires, je suis encore en colère contre Boris et Faustine, parce qu'on ne s'est jamais expliqué. Et je ne sais pas ce qu'on me reproche. Aujourd'hui, j'ai très peur d'entendre des reproches. Alors je fais tout pour qu'on ne me reproche rien. Et c'est nul. C'est nul de se comporter comme ça, parce que du coup, des fois, je pense que j'en fais trop, ou et après, je suis là, mais non, j'aurais pas dû, faut que je le lâche. Enfin, je sais pas ce que c'est que d'entendre des reproches. Donc, je fais tout pour qu'on me reproche rien, et plus les années passent, et plus aussi, je trouve que c'est un manque d'honnêteté envers moi-même et envers les autres, parce que quand moi j'ai un reproche à faire ou juste dire oh bah ça me plaît pas trop que tu te dises ça, c'est pas mal de dire ça. Et ben non, je ne dis rien, je préfère encaisser, garder pour moi, ne pas tenter de mettre un malaise entre nous. Et pour moi, bah, ce n'est pas être honnête. Et ça va contre mes valeurs. Enfin, moi, j'aime les gens honnêtes. Alors, la spontanéité, c'est sûr que c'est pas du tout moi, parce que j'ai beaucoup de mal à être spontanée. Mais voilà, être honnête, être spontanée, voilà, c'est des choses où j'ai vraiment envie de travailler dessus. Maintenant, j'ai plus envie d'agir comme ça, j'ai envie que ça change. Bref, voilà, c'est très intime comme épisode. J'avais besoin d'extérioriser tout ça et de le dire à voix haute. Mais j'ose espérer qu'outre ma visée thérapeutique, voilà, de sortir cet épisode, ça puisse ouvrir à d'autres personnes des réflexions. Peut-être que ça peut permettre de réfléchir sur nos actes de jeunesse. Enfin, voilà, moi-même, hein, je réfléchis beaucoup sur qu'est-ce que j'ai pu faire de mal. Peut-être que c'est un épisode qui peut donner envie aussi d'en parler à nos enfants. Parce que dans ces histoires, il y a aussi un énorme manque de maturité. Hein. Ça, c'est normal. En fait, c'est des histoires d'ados, hein, que je raconte. C'est... Beaucoup de gens ont dû vivre hein, ce genre de situation, mais c'est extrêmement brutal. C'est vraiment brutal. Et voilà, peut-être que si on se rend compte que nos enfants, ils se comportent comme ça les uns avec les autres, leur dire attention. J'ai l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on enseigne de plus en plus. Bah voilà, le fait de s'exprimer, d'exprimer ses émotions, de laisser parler les enfants. Je pense que vraiment, j'ai été une génération où on ne parlait pas de choses profondes comme ça. Et donc, tout rester en surface et faire du mal aux autres, bah, ça nous passait dessus. Ça restait de l'enfance, ça restait de l'adolescence. On n'allait pas s'excuser. On n'allait pas s'excuser, on n'allait pas en parler. J'ai vraiment l'impression qu'on est une génération où on parlait pas, quoi. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment des souvenirs de toutes les amitiés dont j'ai parlé aujourd'hui. C'est vraiment des souvenirs de... Juste, on rigolait. Enfin, alors que quand je rencontre des jeunes, j'ai l'impression qu'ils sont mais tellement plus matures que nous au même âge. Et peut-être que cet épisode aussi, j'ose espérer... Peut-être que ça va permettre à des gens de se sentir moins seuls pour toutes les personnes qui se reconnaîtront dans ce récit. I want somebody to love. Oh, I get by with a little help from my friends. Gonna try with a little help from my friends. Oh, I get high with a little help from my friends. Yes, I get by with a little help from my friends. With a little help from my friends. Merci pour ton écoute. Je ne sais pas du tout où ça me mène de poster ça. Et si je vais assumer, si je le poste, je vais sûrement être tentée de le supprimer, mais je vais essayer de ne pas le faire. On verra. Merci encore à toi pour ton écoute. C'était le podcast La Joie de Camille. N'hésite pas à me contacter si besoin sur Instagram ou Facebook. Mes messages privés sont ouverts, je réponds à tout le monde. Et voilà, s'il y a besoin, n'hésite pas à me refaire des retours sur ce que t'as pu entendre.
Tout ce qui me blesse peut s'éteindre avec le temps. Mais les amis sont lestes et s'envolent avec le vent. Et tout ce qui me blesse peut s'éteindre avec le temps. Mais les amis sont lestes. Les amis sont lestes et s'envolent avec le vent.
J'espère que ça va me faire du bien et que ça peut faire du bien à d'autres personnes.